sacré coup de jeune pour la propagande chinoise avec ce clip de rap qui célèbre la nouvelle session de l'Assemblée nationale populaire. Un rendez-vous où chaque année la Chine affirme sa puissance. Mais sur les bancs de l'Assemblée hier, l'ambiance était beaucoup moins enthousiaste que d'habitude.
Dans notre course au développement, nous serons confrontés cette année à un environnement plus grave et plus complexe. Nous serons aussi confrontés à des risques et des défis, qu'ils soient prévisibles ou non. Ils sont désormais plus nombreux et plus importants. Nous devons être prêts à une lutte difficile.
Avec une prévision de croissance qui s'établit aux alentours de 6% pour 2019, l'empire du milieu en finit avec la croissance à deux chiffres des années fastes. Les tensions avec Donald Trump, bien décidé à réduire le déficit commercial avec Pékin, n'y sont sans doute pas pour rien. Après des mois de sanctions douanières, la Chine semble acculée, obligée de chercher un accord avec les États-Unis.
Nous allons continuer à aligner nos politiques sur les règles commerciales internationalement acceptées. Nous redoublerons d'efforts pour protéger les droits et les intérêts légitimes des investisseurs étrangers.
Quand la Chine était conquérante, elle nous faisait peur. Maintenant qu'elle ralentit, elle nous inquiète aussi. L'économie mondiale peut-elle se passer de la locomotive chinoise? Ce ralentissement de la croissance est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous?
Nadia, une question d'un de nos internautes pour démarrer et entamer ce débat.
Oui, c'est un téléspectateur dubitatif. Il vous demande si la Chine n'a pas toujours un peu triché à propos de son taux de croissance. Valérie Niquet, est-ce qu'il faut croire le gouvernement chinois sur parole quand il rend public ses statistiques?
Bah, comme pour tout en Chine, c'est l'opacité qui règne et les modes de calcul. Alors ça, c'est beaucoup amélioré. Hein, mmh. Ceci dit, d'abord, les outils sont bien meilleurs.
Est-ce qu'il y a un organisme indépendant?
Il y a un organisme indépendant en Chine.
Autant qu'on peut l'être. Ouais.
Mais en tout cas, il y a des outils qui sont beaucoup plus techniques. D'ailleurs, les Chinois ont eu des missions à l'étranger pour justement améliorer leurs statistiques. Ceci dit, les statistiques en Chine, c'est politique. On annonce le taux de croissance à l'avance et c'est très très difficile pour les autorités locales de ne pas les respecter. Et ensuite, on ajuste. Donc certains ont des chiffres très très bas, beaucoup plus bas que ce qu'on annonce aujourd'hui. Il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Mais c'est sûr qu'il faut prendre ça avec quand même des pincettes.
Alors, pendant que Jean-Paul Chang met sur mode avion son téléphone Huawei, comme on dit, avec un très mauvais accent, on va évoquer le chiffre du jour, Vincent.
C'est 28, Elisabeth, ça fait 28 ans que la croissance chinoise n'a pas été à un niveau aussi faible. Alors François Godemans, à quoi doit-on cette faiblesse relative? Parce qu'on est quand même à 6,2% de la croissance chinoise. Est-ce que ce sont des décisions de politique interne ou c'est le durcissement du marché mondial tout simplement?
C'est pas vraiment le durcissement du marché mondial. La Chine a encore des excédents records vers les États-Unis et vers l'Europe, par exemple. Des excédents qui restent gigantesques. Elle importe beaucoup d'ailleurs. Ce qu'elle a fait depuis 2 ans, c'est essayer d'enrayer sa dette intérieure, enrayer l'avancée de sa dette intérieure, qui est surtout le fait des administrations locales, des projets multiples. Elle a pour ça coupé un peu le robinet du crédit. Donc forcément, ça fait mal. Il y a un exemple phare qui est l'automobile.
C'est-à-dire?
La Chine produisait maintenant, je crois, ou consomme le double d'automobiles de l'Union européenne. C'est une évolution fantastique. Pour la première fois, ça repose beaucoup sur le crédit à la consommation. Il y a eu une vraie indigestion du crédit à la consommation. Si le Chinois moyen prend peur, il regarde les querelles sino-américaines, il ne sait pas où ça va, lui, il prend au sérieux Trump et ses menaces, il ralentit un petit peu ce genre de choses. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est pas encore vraiment. Faut pas dire que c'est l'effondrement.
Pas la catastrophe.
Et en un sens, la Chine est plus proche de l'équilibre d'ailleurs qu'elle ne l'était auparavant.
Question Jean-Paul Chang. Est-ce que le vieillissement de la population et le chômage, qui semble être problématique, peuvent expliquer aussi une forme de léger recul ou cette inquiétude?
Alors pour la première fois, effectivement, dans le rapport du Premier ministre chinois, parmi les priorités pour 2019, l'emploi figure au même titre que la croissance et le reste. On pourrait dire que pour le moment, les Chinois ne souffrent pas d'un chômage massif. Le taux officiel est de 4,5 et le taux officieux dont tient compte le gouvernement est de 5,5.
Néanmoins, il y a un problème démographique.
Alors, c'est le vieillissement de la population, un problème dont les dirigeants sont conscients depuis quelques années. Ça limite un peu la casse. Ceci dit, la transformation de l'économie chinoise, la digitalisation, déjà commence à montrer les premiers effets sur l'emploi.
Bénéfique ou néfaste?
Néfaste, puisque il y a une. Et puis aussi, l'élimination d'un certain nombre de grands secteurs où il y a des surcapacités, l'acier, le charbon, font qu'il y a aussi un problème de reconversion, sans parler des nouveaux arrivants sur le marché du travail, très qualifiés, et des soldats qui quittent l'armée.
Valérie Niquet, est-ce qu'il n'y a pas aussi un basculement psychologique? Il y a un an, lors de la même assemblée, on avait l'impression que la Chine allait devenir la première économie mondiale dans les 15 ans à venir. Et là, il y a une inquiétude qui a l'air de se dessiner dans la psychologie collective chinoise. C'est une réalité, ça?
Alors, ce n'est pas uniquement la psychologie collective chinoise. Je pense qu'il y a un an, il y avait un discours chinois qui était de dire, ça y est, on est arrivé, on est les premiers, on va dépasser les États-Unis. Donc, très triomphaliste. Et tout le monde a suivi derrière. Aujourd'hui, on est dans un autre discours qui est peut-être... Il faudra voir. D'abord, c'est un taux de croissance annoncé. On verra ce que ça donnera à la fin de l'année. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être que la Chine, face à Trump, justement, et pour se trouver des nouveaux alliés en Europe et au Japon, ils ont aussi intérêt à gonfler peut-être les difficultés. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une telle différence entre l'année dernière et cette année, en dehors de la guerre commerciale, mais qui pourrait peut-être
s'arranger. Ça serait une tactique de se montrer un peu plus vulnérable.
C'est le cas, par exemple, dans les questions de défense, où parfois la Chine exagère ses capacités et parfois, au contraire, choisit de les diminuer. Donc, on peut aussi prendre ça en compte. Et Li Keqiang a toujours été, d'ailleurs, plus pessimiste que les autres, plus réaliste. Il faudra voir ce que dira Xi Jinping lui-même. C'est aussi un discours, plus que peut-être une réalité. Parfois.
À propos de discours?
Oui, le président américain Donald Trump continue de se montrer intraitable vis-à-vis des Chinois dans la négociation. Là, on va regarder un extrait, c'était une interview le 12 février dernier, on le regarde.
La Chine ne nous a jamais donné 10 centimes. Ça a toujours été le contraire. Maintenant, ils paient des milliards de dollars par mois pour avoir le privilège de venir aux États-Unis et honnêtement, prendre avantage de notre pays. Nous allons voir ce qui va se passer. Mais à un moment donné, j'espère rencontrer le président Xi, que je respecte et que j'aime beaucoup, pour négocier les points sur lesquels le groupe est incapable de s'entendre.
Jean-Paul Chang, le 15 mars, l'Assemblée chinoise devrait voter une loi qui favorisera les investissements américains. Donc est-ce que ça veut dire que Donald Trump a réussi à gagner ce bras de fer, selon vous?
Il est clair que Trump aura obtenu des concessions de la part des Chinois, ce qui était prévisible d'ailleurs, parce que les Chinois ne pouvaient absolument pas se permettre de faire des États-Unis un ennemi, en tout cas sur le plan commercial, et qu'on pouvait prévoir depuis très longtemps que les Chinois allaient faire des concessions importantes. Et je pense qu'il y a des concessions qui sont relativement importantes en termes d'engagement de ramener le déficit américain, en tout cas le commerce avec les États-Unis, à l'équilibre, mais biens et services, parce que les Américains sont excellents en exportation de services, mais très déficitaires, 400 milliards vis-à-vis des Chinois pour 2018. Et donc de ramener à l'équilibre entre les deux d'ici 2025. Donc c'est un engagement qui est important. Les marchés financiers partout attendent cette bonne nouvelle et que Trump, il semble, j'ai lu ici et là, surtout dans le milieu financier, qu'effectivement Trump a tiré la leçon du fait que les marchés financiers sont très, très fébriles tous ces derniers temps et donc il a besoin d'arriver finalement à un résultat.
Valérie Niquet, est-ce que Trump fait le sale boulot des Européens qu'ils sont incapables de faire, n'étant pas dans un rapport de force suffisamment à leur avantage, évidemment?
En tout cas, il le fait plutôt bien. Le gros changement pour la Chine, en fait, c'est par rapport à ce qui se passait auparavant. Ce n'est pas la première fois qu'on demande la parité, le gagnant-gagnant, comme les Chinois sont les premiers à le dire. Simplement, ce qui a surpris Pékin et ce qui les étonne encore aujourd'hui, c'est que Trump veut des résultats. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas, comme on l'a fait souvent, de déclarations sur on va améliorer les choses, on va prendre des mesures. Là, il attend tout simplement des résultats concrets. Et c'est plutôt positif. Et c'est positif pour nous aussi.
On va en profiter éventuellement.
On n'est pas dans la même position que les États-Unis.
Christine Lagarde disait il y a quelques semaines que l'Union européenne pouvait tirer de cet affrontement sino-américain de grandes choses, qu'on avait une carte à jouer. Est-ce qu'on l'a jouée et est-ce qu'on a véritablement un atout?
D'abord, dans les demandes américaines, il y a deux catégories de choses. Il y aurait des changements de politique structurelle, une sorte de reprise de la privatisation et des réformes. Ça, effectivement, je ne crois pas que ce soit dans la possibilité de Xi Jinping de le concéder. Puis l'autre chose, c'est ce qu'on appelle les concessions de marchands de bestiaux ou transactionnels. Je vais vous acheter plus de soja, je vais vous acheter plus de voitures, plus de téléphones, plus de services. Ça, malheureusement, ça ne peut pas se décréter par un traité. C'est toujours à vérifier ensuite. Et jusqu'ici, depuis que Trump est là, le déficit commercial américain avec la Chine, il n'a pas baissé, il a monté. Donc, si vous voulez, il y a quand même un doute sur ce qui va se passer à la fin du mois. Est-ce que vraiment Trump va accepter des promesses qui peut-être ne valent pas plus que le papier sur lequel elles sont écrites, tachetées, et qui, si elles se réaliseraient, seraient discriminatoires au regard des Européens, des Japonais, des autres. Parce que si vous achetez quelque part, vous n'achetez pas ailleurs. Donc, vous ne résolvez pas le problème. C'est une manière de répondre à votre question. Parce que les Européens ont un problème. Ils peuvent essayer de prendre avantage de la querelle pour obtenir un peu séparément des concessions, des avantages. Pour ça, il faut être très unis et il faut aussi faire peur. Le problème des Européens, c'est qu'ils ne font pas peur.
Justement,
pas autant que Donald Trump, en tous les cas. L'autre possibilité, c'est effectivement de se mettre avec Donald Trump, c'est effectivement d'aider à enfoncer la porte. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il fera demain. Et en particulier, les Allemands ne savent pas ce qu'ils feront demain vis-à-vis de l'Allemagne et de ses exportations.
Dans cette affaire, il y a une affaire qui concentre cette tension américano-chinoise. Je me prépare l'affaire Huawei, et notamment de la 5G et des possibilités d'espionnage qu'elle entraînerait. Là, Jean-Paul Cheng, l'Amérique et l'Europe sont unies contre le géant chinois.
Pas complètement. Pas complètement. Il y a des nuances dans le discours européen. L'Europe se contente pour le moment de dire que les pays européens sont très prudents, qu'ils n'ont pas pris de décision. Ils essaient de voir aussi comment ça va évoluer éventuellement entre les Chinois et les Américains. Parce que derrière le problème de l'attaque américaine se cache quand même un problème de marché et des capacités. C'est une révolution technologique. Si on ne prend pas ce qui existe comme équipement 5G maintenant, ça veut dire qu'on prend du retard sur tous les autres pays qui adopteront
ce système. Si on prend la 5G, on se fait siphonner des données
On se fait siphonner par les Américains, c'est sûr.
Seulement les Américains?
Ah non, siphonner, vous voulez dire. Siphonner, vous savez, ceux qui connaissent vraiment la technique vous disent que finalement, personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas de siphonnage. Mais le problème, ce n'est pas un problème de siphonnage, c'est un problème ensuite de décryptation des informations qui sont siphonnées. Donc si on rajoute beaucoup de cryptage supplémentaire à nos informations, même s'ils sont siphonnés, s'ils sont bien cryptés, on
risque rien. Les Chinois n'en font rien, c'est ça que vous voulez dire, François Godemont ?
Moi, je ne suis pas naïf sur les possibilités qu'ont les Américains de siphonner eux aussi des informations à travers les systèmes. Ils l'ont fait dans le passé. Le problème, c'est qu'en Chine, c'est sans limite. Il n'y a absolument aucun contrôle, aucune limite. Et si vous voulez, cette fois-ci, ce sont nos données les plus personnelles. Il faut que les gens se rendent compte que ça va 100 fois plus loin que l'Internet classique tel qu'on l'a connu. L'Europe, par rapport à ça, c'est une peau de léopard. En réalité, beaucoup de pays sont déjà engagés. Il va falloir qu'ils fassent machine arrière. S'ils sont convaincus, c'est une situation difficile. Je pense que l'Europe n'a pas pris la mesure de l'enjeu 5G et des investissements qu'il fallait faire.
Valérie Niquet, il y a aussi une sorte de reflux dans les ambitions démesurées des routes de la soie qu'avait affiché l'année dernière, on se souvient, Xi Jinping.
Enfin, les nouvelles routes de la soie.
Oui, les nouvelles routes de la soie.
Dès le début, les ambitions étaient considérables. Vous vous souvenez, pas l'année dernière, déjà dès que l'idée a été lancée en 2013.
Vous pouvez nous rappeler
ces projets en 2013, en fait, Xi Jinping, dont la réputation et surtout celle de la Chine n'était pas très bonne, notamment en Asie du Sud-Est, a lancé cette idée de finalement montrer que la Chine était une opportunité avec ses grands projets de route de la soie qui ont pris des noms, des formes différentes et qui sont simplement la volonté de la Chine. À la fois, on a beaucoup parlé à l'époque d'exporter des surcapacités, mais ce n'est pas uniquement ça, c'était beaucoup aussi une question d'image. Vous vous souvenez qu'on parlait de la Chine sauvant le monde, développant l'Afrique, allant jusqu'en Arctique, le Pacifique, l'Asie centrale. Donc c'est un discours aussi qui était très important.
Oui, ce n'est pas que des routes, c'est un symbole.
Chinoise. Et puis, il y a aussi des investissements réels qui répondaient, il faut le reconnaître, à des besoins réels en termes de développement d'infrastructures. La Chine a quand même beaucoup bénéficié du fait que l'Occident se désintéressait de zones entières qui ne rapportaient rien parce que, effectivement, le régime chinois peut se permettre d'investir à perte. Ils sont un peu revenus là-dessus. Et puis surtout, on le voit avec le ralentissement de l'économie, les investissements chinois ne sont pas aussi massifs.